une petite précision par rapport au dernier cours, c'est-à-dire par rapport au rapport de l'intelligence et de l'être, la découverte, si vous voulez, au plan métaphysique, et surtout l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, on me met ceci, vous avez dit au dernier cours de philosophie première que celle-ci est philosophie de l'esprit. J'ai dit, on peut dire, hein, en second lieu, elle est d'abord philosophie de l'être, et parce qu'elle est philosophie de l'être, elle est philosophie de l'esprit. Il faut bien comprendre le lien. Ne pourrait-on dire qu'elle est la vie même de l'esprit, c'est-à-dire l'activité dans laquelle il atteint pleinement sa finalité, et que la critique, celle-ci faite dans le De Anima, est la philosophie de l'esprit, qui saisit comment celui-ci atteint cette finalité. Alors, c'est une question de précision. Quand je dis philosophie de l'esprit, philosophie de l'intelligence, je veux montrer que ce n'est qu'en regardant le point de vue de l'être et en découvrant le point de vue de ce qui est du point de vue de l'être que l'intelligence se découvre pleinement. L'intelligence ne se découvre dans sa profondeur que dans la mesure où elle atteint l'être. Et toute l'analyse que nous faisons au niveau de la philosophie première va permettre à l'intelligence de se découvrir progressivement. L'intelligence ne se découvre que face à l'autre. Alors, quand l'autre est saisi d'une manière concrète, d'une manière, si vous voulez, uniquement dans son existence, l'intelligence se découvre bien par l'expérience qu'elle a. Chaque fois que vous faites, que vous réalisez une expérience, votre intelligence se découvre, votre volonté se découvre. Il y a une découverte progressiste qui se fait de l'esprit. Mais je voulais vous montrer que, au-delà des expériences habituelles, il y a possibilité d'une réflexion qui nous fait découvrir la condition sine qua non de toutes les expériences, qui est le jugement d'existence. Et que nous mettons alors en pleine lumière ce jugement d'existence, on le déterre, on le dévoile, si vous voulez, pour le regarder pour lui-même. Ceci exige une certaine réflexion. Mais une réflexion dont il faut bien comprendre la signification, c'est-à-dire une attention particulière de l'intelligence sur ce qu'il y a de fondamental à toutes nos expériences. Ce n'est pas une réflexion au sens où on se mettrait à réfléchir sur la vie de l'intelligence. Parce que je peux très bien réfléchir sur la vie de l'intelligence, ce n'est pas du tout la même réflexion que l'attitude d'attention particulière sur ce qui fonde toutes mes expériences et la réflexion au contraire sur le sujet connaissant qui, dans la mesure même où il connaît, se dévoile à lui-même. Alors à ce moment-là, c'est la réflexion sur la vie de l'intelligence. C'est pour ça que je n'aimerais pas beaucoup de dire qu'il s'agit de la vie de l'intelligence. En réalité, il ne s'agit pas de la vie de l'intelligence. La vie de l'intelligence, je l'étudie dans la philosophie du vivant. Et j'essaie de comprendre à ce moment-là les diverses opérations vitales de l'intelligence. Tandis qu'en métaphysique, ce n'est pas la vie de l'intelligence au sens propre que je regarde ce qui caractérise l'esprit. Ce lien de l'intelligence avec l'être. Et je crois que ça faisait toute la différence entre Hegel et Aristote. Hegel, c'est une philosophie de la vie de l'esprit. Mais ce n'est pas une philosophie de l'esprit. Si on parle avec beaucoup de précision. Parce que tant que l'intelligence ne découvre pas l'être, elle ne découvre pas l'esprit. Au sens fort. Elle découvre son cheminement. Découvrir le cheminement dialectique de l'intelligence, c'est découvrir la vitalité de l'intelligence. C'est découvrir son autonomie. C'est découvrir tout ce qu'elle est capable de faire dans les différents aspects qu'elle peut se développer. Tandis que la découverte de l'être permet à l'intelligence de se déterminer dans ce qu'elle a de plus fondamental. Et l'intelligence, à ce moment-là, se découvre comme intelligence. C'est donc comme esprit. C'est pour ça que je peux dire que la philosophie première qui regarde ce qui est du point de vue de l'être à partir du jugement d'existence, cette philosophie première est en même temps la philosophie de l'esprit. Mais en second lieu, pas en premier lieu, elle est philosophie de l'esprit. C'est un problème qui est très important. Je sais que le père Dubarle, que j'aime beaucoup et qui est un bon philosophe, qui aime énormément Aristote et Hegel, il a deux amours, hein. Et alors de temps en temps il penche d'un côté, de temps en temps il penche de l'autre. C'est très bien, je comprends très bien ça, je comprends très bien qu'il peut y avoir comme ça ces deux aspects. Eh bien, la dernière année de son cours de philosophie à l'Institut catholique de Paris, il avait commencé de cette manière en disant « Nous sommes en présence de deux métaphysiques possibles. La métaphysique de l'être, Aristote, la métaphysique de l'esprit qui a commencé avec Descartes. » Et c'est vrai, la philosophie de l'esprit a commencé avec Descartes, où on a commencé à réfléchir sur le cogito. Donc, philosophie de l'esprit, de Descartes à Hegel. N'y a-t-il pas possibilité de faire la synthèse des deux ? Je comprends que c'est terriblement tentant. Et si on pouvait faire la synthèse des deux, je bondirais dessus. Parce que je trouverais ça admirable. Vous voyez, ça montrerait comment, progressivement, dans l'histoire de la philosophie occidentale, il y a toute la perspective très objective des Grecs. La foi a mûri la subjectivité. À travers les pères de l'Église et les théologiens, la subjectivité a pris toutes ses dimensions. Et à partir de là, une nouvelle philosophie est née, la philosophie de l'esprit. Parce que c'est un phénomène qui ne peut se comprendre qu'à partir de la théologie. C'est très curieux, mais c'est comme ça, c'est un fait. Merleau-Ponty souligne très bien ça, il l'a très bien senti, c'est ce qui peut-être l'a fait prendre des attitudes un peu particulières, mais il l'a très bien senti, ces deux aspects-là. Le premier Merleau-Ponty et le second Merleau-Ponty. Le premier Merleau-Ponty, il est dans la perspective de la philosophie de l'esprit. Le second Merleau-Ponty, il est dans la perspective de la philosophie de l'être et de l'être sauvage. Il a très bien senti qu'il y avait ces deux orientations dans notre philosophie occidentale. Et c'est vrai, si je veux résumer, on l'a dit plus d'une fois, et je crois que c'est très important, si on veut résumer ce qu'il y a d'essentiel dans tout le développement de la philosophie première en Occident, on peut dire qu'elle a commencé par être une philosophie de l'être, et je ne dis pas qu'elle s'est terminée et achevée à être une philosophie de l'esprit, mais il y a eu un tournant. Alors, ce tournant est-il légitime ? Ce tournant est-il un tournant qui, de fait, est une impasse ? Toute la question est là. Savoir si c'est une impasse ou bien on découvre la vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Descartes, et avant Descartes, si vous voulez, nous le savons bien, avant Descartes, à l'intérieur même des théologiens, il y a eu un grand tournant au plan philosophique dans cette attitude réflexive, et cette attitude réflexive a fait philosophie de l'esprit. Alors, pouvons-nous faire la synthèse ? On doit toujours se poser la question. Ce ne serait pas bien de ne pas se poser la question. On doit toujours se poser la question. On doit se poser la question, y a-t-il comme deux aspects de la philosophie première, une commençant par le point de vue de l'être, philosophie grecque, et puis cet aspect nouveau d'une philosophie réflexive sur l'intelligence, sur l'esprit, sur la vie de l'esprit. Oui, c'est ça que je me pose la question. Et quand je dis sur la vie de l'esprit, c'est sur l'immanence de l'intelligence et le développement propre de la vie de l'intelligence pour elle-même. Philosophie de l'autre, philosophie du même. Il faut toujours avoir quelques aspects qu'on retrouve tout le temps. Alors, pouvons-nous faire la synthèse? Ou devons-nous considérer que, de fait, alors ça c'est beaucoup plus ma position, parce que le père Dubarle, lui, marquez qu'il n'a pas conclu, hein. Il n'a pas conclu, il a simplement posé le problème. Pouvons-nous faire la synthèse d'une philosophie de l'esprit, d'une philosophie de l'être, une philosophie de l'esprit? Je crois qu'on doit dire ceci, il me semble, hein, parce qu'on doit prendre son bien, la vérité, partout où elle est. On doit chercher la vérité. Et on doit avoir le courage de dénoncer les confusions qui peuvent se faire. Parce que si on est dans les confusions, tôt ou tard, on s'enferme dans une impasse. Ou nous, ou nos descendants. Alors, ce n'est pas la peine de mettre nos descendants dans une impasse. Est-ce que Descartes a mis ses descendants dans une impasse? Ça, c'est la question. Et est-ce qu'en commençant par la réflexion sur la vie de l'esprit, est-ce qu'on ne se met pas dans une impasse? Est-ce que la philosophie première, à ce moment-là, n'est plus une vraie philosophie première? C'est une philosophie seconde. C'est une philosophie seconde parce qu'en réalité, elle n'est pas première. Elle présuppose une activité de l'intelligence. Et elle regarde cette activité de l'intelligence en la coupant de son objet qui est premier, de la réalité haute qui est premier. Et là, vous regardez le même. Cogito, mais cogito de quoi? Je pense à quoi? Est-ce que je pense pour penser? Est-ce que je cogite pour cogiter? Ça devient maladif à ce moment-là. Hein? Ça devient dangereux, celui qui aime de cogiter pour cogiter, en disant ça m'est égal sur quoi je cogite, mais la seule chose qui m'importe, c'est de cogiter. Alors, je réfléchis sur le cogito pris comme un absolu en le coupant de son objet. Cogito ergo sum. Vous voyez, le résultat de ce cogito qui se coupe de toute réalité en dehors, c'est qu'il redécouvre qu'il existe. C'est une belle découverte. Cogito ergo sum. Et la seule réalité qu'il découvre à l'intérieur de son cogito, c'est qu'il existe. Vous voyez l'immanent. C'est extraordinaire de voir ça. C'est assez beau, c'est assez beau, il y a quelque chose de grand, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas très court? C'est là la question. Est-ce que de fait, au bout du cogito, vous ne vous trouvez que vous? C'est un petit peu ennuyeux de voir que toute votre connaissance, au bout d'un certain temps, n'aboutit qu'à un seul résultat, ego sum, ergo sum. Je suis. Bon. Alors, la question, et ça touche cette question-là, c'est pour ça que je la reprends, et c'est important. Parce que nous devons avoir toujours devant les yeux un peu le développement de la philosophie première en Occident, puisque c'est cette philosophie que nous regardons en premier lieu. On pourrait regarder l'Orient aussi, mais nous avons déjà pas mal de choses à regarder l'Occident. Hein. Après avoir bien regardé l'Occident, regardez l'Orient, si vous voulez. Ou bien regarder d'abord l'Orient, mais il ne faut pas trop mêler trop vite. Hein. Donc, je vois que dans le développement de notre philosophie occidentale, c'est d'abord une philosophie première de l'être. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est déjà pas si commun. Puis, philosophie de la vie, de l'intelligence. Philosophie de l'esprit. Les classiques de la philosophie de l'esprit. Ça signifie quelque chose. Pouvons-nous faire la synthèse? Pouvons-nous dire la métaphysique, la philosophie première, disons philosophie première, c'est mieux dire philosophie première. La philosophie première, c'est la philosophie de l'être, c'est la philosophie de l'esprit. Et qu'en réalité, c'est la philosophie des deux. Alors, pouvons-nous faire la synthèse? D'abord, poser la question, se poser, faire la synthèse, est-ce que ça a une signification? La question qu'il faut se poser, est-ce que je peux additionner l'esprit et l'être? Ou est-ce qu'en réalité, je ne peux pas? Parce que l'esprit, c'est encore l'être. Du moins, j'espère. Et Descartes le dit, cogito ergo sum. Donc, c'est l'être. Donc, à l'intérieur de l'esprit, je découvre l'être. Faut-il mettre l'être avant l'esprit? Faut-il mettre l'esprit avant l'être? Alors, je retrouve une question classique, très bien connue. Faut-il mettre la relation esprit-être, dépendance, de l'esprit par rapport à l'être, ou faut-il faire l'inverse, mettre que de l'esprit, je découvre l'être. Et donc l'être est relatif à l'esprit. Vous voyez qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas d'une synthèse, il s'agit tout simplement de découvrir en profondeur qu'est-ce qui est premier. Ils sont toujours corrélatifs l'un par rapport à l'autre. Je ne peux pas les séparer, ils sont toujours corrélatifs. Mais il y a un ordre. Taxis, il y a un ordre. Il faut découvrir cet ordre. Il faut découvrir qu'est-ce qui est premier. Et toute la critique est là pour nous montrer qu'est-ce qui doit être premier. Et alors c'est pour ça que je crois qu'on peut dire philosophie première qui regarde l'être implique une philosophie de l'esprit. Et quand je dis implique une philosophie de l'esprit, nous devrions à ce moment-là assumer tout ce qu'il y a de juste dans tout le grand développement de la philosophie de l'esprit qui s'est fait à partir de Descartes. Même s'il y a des choses monstrueuses. Dans les choses monstrueuses, il y a des petites paillettes d'or. Dans l'hégélianisme, il y a des petites paillettes d'or qui sont importantes à voir. Et à saisir. Donc, quand je dis philosophie de l'esprit, quand je dis philosophie de l'être, je dis donc philosophie de l'esprit, en second lieu, parce que l'être est pour moi révélateur de l'esprit. C'est par l'être que je découvre l'esprit, en définitive. C'est par l'être que je découvre ce qu'il y a de plus profond dans l'esprit. C'est que l'esprit est capable de connaître l'être, et il est capable d'aimer le bien. Et je vois à ce moment-là que être et bien vont me permettre de découvrir ce qu'il y a de plus profond dans l'esprit, la connaissance et l'amour. Et que pour moi, connaissance et amour ne pourront jamais se ramener à l'unité. Je ne peux pas faire la synthèse de la connaissance et de l'amour. Oui, dans la contemplation, mais ce n'est pas la synthèse. Puisque c'est l'intelligence au service de l'amour. Si c'était la synthèse, ce ne serait pas l'intelligence au service de l'amour. Donc ce n'est pas la synthèse. C'est encore distinguer la connaissance et l'amour. Jusqu'au bout, je suis obligé de distinguer les deux. Et si je distingue les deux, c'est parce que je vois que le point de vue de l'esprit est ordonné à l'être et que le point de vue de l'amour est ordonné au bien. Que l'amour dépend du bien. Donc je crois qu'on peut dire ceci. C'est que la philosophie première regarde bien l'être, ce qui est du point de vue de l'être, en se fondant sur le jugement d'existence. Que cette philosophie de l'être implique une philosophie de l'esprit. Et c'est pour ça que cette philosophie de l'esprit, je dois l'expliciter en critique. Que la critique explicite parfaitement ce que représente la profondeur de l'esprit, alors tout à fait d'accord. La critique exprime ça, parce que la critique, c'est une attitude réflexive. Mais que l'attitude réflexive est seconde, elle n'est pas première. Elle présuppose tout à fait de l'intelligence. Donc ceci, c'est pour essayer de comprendre, si vous voulez, ces trois aspects qui seraient importants à saisir. La vie de l'intelligence. Il y a la vie de l'intelligence, je souligne, la vie de l'intelligence, où nous sommes en face d'une immanence parfaite, entre guillemets. Peut-il y avoir une immanence parfaite? Bon, il y a une immanence parfaite, je pose la question. Deuxièmement, il y a la philosophie de ce qui est du point de vue de l'être. C'est l'angle de l'être. Cette philosophie de ce qui est du point de vue de l'être va impliquer tout de suite la philosophie de l'esprit. Et je dis bien la philosophie de l'esprit, parce que l'être va nécessairement me poser le problème du bien. C'est impossible autrement. Je ne peux pas aller jusqu'au bout de ma connaissance de l'être sans poser le problème du bien. Nous l'avions vu, puisque l'être implique l'acte, et que l'acte se réalise à travers le point de vue du bien. Donc la philosophie de l'être pose le problème de la philosophie du bien. Eh bien la philosophie de l'esprit, c'est à la fois connaissance de l'être, l'intelligence se révèle à elle-même par la connaissance de ce qui est. L'intelligence se révèle à elle-même. Se révèle pas à autre chose. Hein. L'intelligence a ce privilège de pouvoir être auto-révélatrice d'elle-même. C'est un très grand privilège, mais c'est aussi quelquefois un piège. Parce que je peux uniquement réfléchir sur moi-même. Mais il y a cette possibilité de comprendre que l'être révèle à l'intelligence ce qu'elle est. Et il y a dans l'esprit la volonté qui regarde bien. Donc une philosophie de l'esprit implique toujours le développement de l'intelligence et de la volonté. C'est impossible autrement. Une philosophie de l'esprit qui serait uniquement la vie de l'intelligence. Vous comprenez qu'à ce moment-là, cette philosophie de l'esprit ne peut plus impliquer dedans la volonté. C'est ce qui explique comment une philosophie de l'esprit, qui est la réflexion de l'intelligence sur elle-même, à la manière hegelienne, supprime le point de vue du bien et de l'amour. Pour que l'esprit puisse nous apparaître comme impliquant le développement de l'intelligence et le développement de la volonté, il faut comprendre que l'esprit est relatif à ce qui est. Et donc il est relatif à l'être et au bien. Et je ne pourrai jamais arriver à une synthèse des deux. Ce serait la mort de l'amour et ce serait la mort de l'intelligence. C'est ça qui est très curieux. L'intelligence ne peut se développer parfaitement elle-même que dans la mesure, justement, où elle arrive à se distinguer de l'amour. Non pas rival de l'amour, mais se distinguer de l'amour pour arriver à une connaissance qui soit de plus en plus pénétrante. Mais en se distinguant de l'amour, l'intelligence ne s'oppose pas à l'amour, mais au contraire, elle peut se mettre au service de l'amour. En se distinguant, un vrai serviteur sait qu'il est serviteur. Un serviteur qui ne sait pas qu'il est serviteur, vous savez bien, plus il grossit, plus il devient quelqu'un qui veut être le maître et veut dominer. Alors à ce moment-là, il n'est plus serviteur. Alors quand l'intelligence se grossit en réfléchissant sur elle-même la vie de l'intelligence, elle n'est plus servante de l'amour, pas plus. Parce que je demeure dans l'immanence absolue de cette vie de l'intelligence. C'est pour ça que je dirais que la philosophie de la vie de l'intelligence ou de la vie de l'esprit, peu importe, fait que progressivement, il n'y a plus que le développement de l'intelligence. Alors, donc, philosophie de ce qui est, philosophie de l'esprit. Et la critique va mettre en pleine lumière ce développement autonome de l'intelligence. L'intelligence se développe par elle-même. Il y a un développement autonome de l'intelligence. C'est pour ça qu'en critique, on pose l'intellect agent. C'est pour assurer ce développement autonome de l'intelligence. Qu'on constate, l'intelligence a une certaine autonomie. C'est ce qu'il y a de plus autonome en moi. Et cette autonomie n'est pas absolue parce que l'intelligence est relative à l'être. Et parce que l'intelligence est relative à l'être et dépendant de l'être, cette autonomie de l'intelligence peut se mettre au service de l'amour. Si l'intelligence n'était pas relative à l'être, elle ne se mettrait jamais au service de l'amour. Elle serait le développement autonome de la vie de l'esprit, le développement autonome de la vie de l'intelligence, qui se considérerait comme ayant une immanence absolue et ne se mettant jamais au service de l'amour. C'est pour ça que je crois que c'est important de saisir ces différents moments. Bon, je n'insiste pas plus. Je voudrais, puisqu'il s'agit d'entrer aujourd'hui dans le sujet que nous traiterons pendant ce semestre, je vous ai rappelé quelques aspects généraux jusqu'ici. Je vous disais hier que nous entrions en métaphysique par le jugement d'existence. J'insiste lourdement pour que vous arriviez vraiment à le comprendre avec toute la finesse qu'il faut. C'est-à-dire comprendre que c'est un au-delà et un dépassement de mes diverses expériences. C'est en ce sens-là, vous voyez, que n'importe quelle expérience peut me permettre d'entrer en métaphysique. J'ai des expériences propres pour la philosophie de l'art. J'ai une expérience propre pour la philosophie du vivant. Tandis que je n'ai aucune expérience propre pour entrer en métaphysique. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, c'est en métaphysique où il y a le plus de portes possibles. Mais ce sont des trappes. C'est-à-dire, ce n'est pas des portes visibles. C'est toujours à travers une expérience visible, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, ça m'est égal. Puisque mes expériences intérieures, hein, mes expériences intérieures, l'expérience que j'ai d'aimer, l'expérience que j'ai de l'inspiration, je suis inspiré par moments. Bon, j'ai cette expérience-là de mon inspiration. J'ai l'expérience de mon amour, de ma capacité d'aimer. Bon, ce sont des expériences intérieures. Ces expériences intérieures, dans la mesure où elles sont de véritables expériences, elles impliquent un jugement d'existence. Puisque mon amour est quelque chose de réel. Mon inspiration est quelque chose de réel. Alors, je peux donc commencer par cette expérience. Mais vous voyez tout de suite la difficulté. C'est que dans l'expérience de l'amour, dans l'expérience de l'inspiration, qui sont peut-être pour moi les expériences les plus éclatantes, les plus manifestes, les plus présentes à ma vie, si je suis un peu artiste et si je suis amoureux, comme dirait Platon. Hein. Donc ce sont les expériences les plus manifestes dans ma vie. Parce que quand je suis amoureux, ça prend tout. Et quand je suis artiste, ça prend tout. Alors, je suis successivement amoureux et inspiré, n'est-ce pas ? Parce qu'en même temps, ça ferait sauter la boutique. Mais successivement, ça peut aller. Alors, je suis amoureux, je suis inspiré. Je pourrais partir de cette expérience en disant, cette expérience implique quelque chose de fondamental. C'est que celui qui aime, il existe. Celui qui est inspiré, vous voyez, j'arrive à celui qui aime et celui qui est inspiré. Et alors à ce moment-là, je pars du jugement d'existence. J'ai remonté l'expérience interne pour découvrir celui qui est à la source de cette expérience interne. Et je pars de moi. Ça revient au même. Oui, je crois que c'est important de saisir que l'entrée en métaphysique peut se faire de multiples manières. Le tout, c'est de comprendre que toutes mes expériences, internes ou externes, impliquent ou immédiatement ou médiatement le jugement d'existence. Mes expériences internes impliquent médiatement le jugement d'existence. Mes expériences externes l'impliquent immédiatement. Mais ça importe peu, puisque ça importe peu que ce soit média ou immédiate. Le tout, c'est de comprendre que ce n'est pas l'amour qui m'introduit en métaphysique, ce n'est pas l'inspiration qui m'introduit en métaphysique, ce n'est pas l'intuition qui m'introduit en métaphysique, c'est l'au-delà de l'amour, c'est l'au-delà de l'intuition, c'est l'au-delà de l'inspiration, c'est le jugement d'existence. Ce n'est pas l'expérience du travail qui m'introduit en métaphysique. Ça m'introduit dans l'homme, dans la philosophie de l'homme et dans la philosophie du corps, l'expérience du travail, l'homme travailleur. Mais ça ne m'introduit pas immédiatement en métaphysique. Ça m'introduit pas immédiatement en métaphysique. Pour que la métaphysique soit présente, il faut cette expérience de la réalité qui existe. Autrement dit, il faut toucher l'autre. C'est très curieux. La métaphysique ne commence qu'en touchant l'autre. L'autre qui existe. Ce n'est pas en me découvrant moi-même, en tant que moi-même, dans mon immanence, dans l'immanence de ma vie spirituelle, ce n'est pas en me découvrant moi-même que j'entre en métaphysique. Ah, c'est une fameuse purification. Mais la métaphysique a ce respect de l'autre. Ceci est. Ceci est, ça peut être moi, je suis, oui. Mais en tant que je suis autre que mon intelligence. Et je suis autre que mon amour. Et je suis autre que mon inspiration. Je suis. Je suis comme l'autre existe avec côté de moi. Dès que vous vous regardez du point de vue de l'être, vous respectez immédiatement l'autre réalité qui existe à côté de vous. Et vous dites, c'est curieux que je ne suis pas le seul qui existe. Et je suis obligé de reconnaître que je ne suis pas le seul qui existe. Tandis que du côté de l'amour, vous pouvez toujours dire, je suis le seul à vraiment aimer. Personne avant moi n'a aimé comme moi. C'est bien évident. Je suis le seul à avoir des intuitions d'une profondeur telle. Parce que personne ne peut les mesurer. Donc vous pouvez toujours dire que c'est vous. Puisque vous êtes le seul spectateur de votre amour et de la profondeur de votre amour. Vous et Dieu seulement. Vous êtes le seul à pouvoir mesurer la profondeur de vos intuitions. Vous êtes le seul à pouvoir mesurer la profondeur de votre inspiration. Tandis que quand il s'agit de l'existence, vous n'êtes pas le seul. J'existe. Et un autre peut dire aussi, tu existes. Et l'existence, elle est donnée à tous, l'autre. C'est très curieux ça, il faut le sentir pour comprendre le point de départ de la philosophie première. C'est important. Bon, je vous ai rappelé l'importance de l'interrogation. Maintenant, comprenons. Les interrogations vont nous conduire à découvrir progressivement les causes et les principes. Alors, je peux dire ça en deux mots, mais je peux aussi réfléchir comment l'interrogation nous conduit à la découverte des causes et des principes. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est sûrement une des voies les plus importantes à découvrir. Comment l'interrogation qui met notre intelligence en état d'appétit, qui fait que notre intelligence veut aller le plus loin possible, comme intelligence, donc veut pénétrer profondément dans la réalité pour découvrir dans la réalité ce qu'il y a de plus profond. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Comprendre qu'est-ce que c'est que l'être ? Et alors la grosse question, c'est de voir comment naît cette inspiration, naît cette interrogation. Comment cette interrogation veut découvrir dans la réalité ce qu'il y a de plus profond. Qu'est-ce ? Le tiesti. Ce n'est pas le fait d'exister, mais c'est le tiesti. Qu'est-ce que c'est ? Et je veux savoir ce que c'est. Or, ce tiesti m'oblige donc d'aller le plus loin possible dans la découverte de la réalité. Alors, c'est cette démarche que vous connaissez bien, cette démarche importante d'une intelligence qui est en état de découverte, en état de recherche, l'attitude du chien de chasse. Selon Platon, quand on est devant le fourré et qu'on voit le gibier derrière, personne ne voit le gibier, mais le chien de chasse, grâce à son nez, l'a découvert. Hein ? C'est très curieux, ça. Eh bien, c'est un petit peu comme ça, celui qui interroge, vous voyez ? Grâce à son nez, c'est-à-dire grâce à son intelligence en état d'interrogation, il se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et pour se poser cette interrogation, ça prouve qu'il l'a déjà un peu découvert. Autrement, il ne se poserait pas la question. Il y a déjà une certaine connaissance, il y a déjà un certain toucher de l'intelligence avec l'être. L'intelligence a touché par le jugement d'existence ce qui est. Et l'ayant touchée, elle veut aller plus loin. Elle y a goûté. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment comme quelque chose qui montre cette connaturalité profonde de l'intelligence avec ce qui est. Et l'intelligence veut aller plus loin. Et alors, elle interroge pour aller plus loin, pour revenir à cette réalité et pour découvrir dans cette réalité ce qu'il y a de premier. Alors, c'est là, il faut comprendre, hein, que l'intelligence, parce qu'elle a une capacité infinie de découverte, ne peut s'arrêter que devant ce qu'est le premier. L'intelligence ne peut pas s'arrêter au relatif. Vous voyez la subjectivité transcendantale de l'intelligence, hein, où il faut la situer. C'est justement dans ce fait que l'intelligence ne peut pas s'arrêter au relatif. Elle ne peut pas s'arrêter à tout ce qui est donné dans l'ordre. Elle ne peut pas s'arrêter à l'ordre. L'intelligence, ça ne lui suffit pas de s'arrêter à l'ordre. Parce que l'ordre, c'est encore une diversité. Dans l'unité, mais c'est encore une diversité dans l'unité. L'intelligence a en elle, dans son appétit, un désir de toucher quelque chose qui est premier. Alors vous allez me dire, ça vous le posez. C'est un a priori. Puisqu'au fond, je peux dire que l'intelligence est faite uniquement pour la relativité. Et que l'intelligence est faite uniquement pour l'ordre. Pourquoi dites-vous que l'intelligence doit découvrir absolument un principe et une cause? C'est vrai, ça, c'est très vrai que je le dis. Que l'intelligence est faite pour découvrir un principe et une cause. Pourquoi l'intelligence n'est-elle pas faite uniquement pour décrire et regarder l'aspect de la relativité? C'est intéressant devant le positivisme d'aujourd'hui. C'est intéressant devant tous ceux qui au fond, ne regardent la philosophie première qu'une philosophie poétique, une philosophie descriptive, une philosophie existentielle. Pourquoi nous casser la tête? C'est vraiment tout à fait inutile. Hein. C'est tellement plus simple hein, de décrire psychologiquement les transcendentaux. Ce serait tellement plus simple de regarder tout le rayonnement du vrai, du bien, de l'un. Mais le rayonnement, pas chercher les principes. Pourquoi mon intelligence ne peut pas s'arrêter uniquement à l'ordre, à l'aspect relatif des choses. Je vous ai dit, l'intelligence se découvre à elle-même. C'est ça qui est si difficile. L'intelligence se découvre à elle-même. Et donc, ce n'est que dans la mesure où je découvre moi-même les principes et les causes que je peux dire que l'intelligence est faite pour les principes et les causes. Je ne peux pas le dire a priori. Je ne peux pas le dire a priori. Je peux le dire que dans la découverte même de l'intelligence. Autrement, ce ne serait plus de l'intelligence. Je pourrais le dire par mode d'autorité. Mais ce n'est pas une raison pour l'intelligence. Je peux dire que certains philosophes l'ont dit, comme ce ne sont pas des imbéciles, ben j'essaie de comprendre ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé de cause et de principe. Aristote est le premier à avoir réfléchi sur la cause et le principe. Et d'avoir compris que les causes et les principes sont multiples et divers. Alors, je peux le dire par mode d'autorité. Au point de départ, c'est ce que je fais. Je crois. Au point de départ, puisque je ne peux pas rejeter a priori. Ce serait quand même très bête. Alors là, ce serait une bêtise. De rejeter a priori, de dire, ces philosophes se sont trompés. Mais au nom de quoi vous le dites? Est-ce que vous avez fait vous-même l'enquête? N'avez pas le droit. Donc vous devez essayer de faire la même enquête. Et vous devez essayer de comprendre s'il y a une voie d'accès à la découverte des principes et des causes. Et cette voie d'accès, Aristote l'appelle induction. Et il l'appelle induction, cette voie d'accès. Il y a une voie d'accès particulière et il la signale. Hein. Il lui donne un nom propre. Et il le répète, on a compté le nombre de fois, n'est-ce pas, où Aristote avait employé le mot « épagogé », le mot « induction ». Combien de fois Aristote dit qu'il y a une voie d'accès pour découvrir les principes et les causes? C'est quand même quelque chose de très important, cette découverte d'une intelligence en état de recherche. C'est une intelligence qui interroge, qui découvre. Ça va de soi, du reste, hein. C'est une intelligence qui interroge, qui découvre. Une intelligence qui n'interroge pas ne découvre rien. Et elle découvre à travers cette voie très particulière. Très, très particulière. C'est le petit sentier de montagne. C'est le petit sentier de montagne où vous découvrez des traces d'un animal particulier qui est passé par là. Et alors vous trouvez ces traces. Et vous arrivez petit à petit à remonter. Et c'est très curieux, c'est une montée qui se fait, comme toujours quand il s'agit de l'intelligence, dans un regard quasi immédiat. Pas immédiat, Parce qu'autrement, alors, je n'aurais pas cherché. Il faut chercher. Et on découvre immédiatement. C'est curieux. La cause et le principe se révèlent à l'intelligence dans leur absolu. La cause et le principe, dans la mesure même où il est découvert, il se découvre comme un absolu. Il n'est pas lié, il est lié à un métaxu, il est lié à un moyen terme en raison de mon conditionnement intellectuel, mais il n'est pas lié à un métaxu par lui-même et en lui-même, c'est-à-dire par rapport à mon intelligence comme intelligence. Il se révèle à moi. C'est ça qui est très difficile, vous voyez, c'est là où on est toujours un peu coincé au point de vue métaphysique par rapport à des esprits positivistes, par rapport à des esprits qui sont uniquement au niveau psychologique, qui veulent qu'on leur montre que le principe existe. Pour eux, n'existe que ce qui se touche, que ce qui se voit, que ce qui se mesure. Or, le principe et la cause, par définition, ne peuvent pas être mesurés, ne peuvent pas être saisis relativement à autre chose. Ils sont premiers dans l'ordre de l'intelligibilité. Ils sont premiers dans l'ordre de l'être. Ils sont premiers dans l'ordre du devenir. Et donc là, il y a une démarche tout à fait sui generis, propre à l'intelligence. Est propre à une intelligence liée au sens. Propre à une intelligence qui mendie son bien à partir de l'expérience. Propre à une intelligence qui, de fait, sait que c'est la réalité qui doit se dévoiler à l'intelligence. Que c'est la réalité elle-même qui se dévoile. Et je peux dire ça dès que j'ai saisi le jugement d'existence. Le jugement d'existence me montre qu'il y a l'autre qui s'impose à moi. Cet autre, je veux le connaître. Et pour le connaître en profondeur, j'essaie de l'analyser. J'essaie de découvrir ce qu'il y a de premier en lui. Bon, il y a donc cette recherche des causes et des principes que je peux, en critique, situer et justifier, mais que je ne peux pas affirmer a priori. Il faut soi-même avoir découvert les causes et les principes pour comprendre que les causes et les principes existent, que c'est autre chose que de la logique. La logique demeure au niveau de la définition. Et la découverte des principes et des causes est un au-delà de la définition. Les définitions, tout le monde les accepte, même les positivistes. Mais les causes et les principes, tout le monde ne les accepte pas. Parce que c'est un au-delà de la définition. C'est un au-delà de ce conditionnement dans lequel je me trouve. Et je découvre une source. Quelque chose de premier. Quelque chose au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et qui se manifeste à moi. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que toute la philosophie est une recherche des causes. Trois niveaux qu'il faut tout de suite bien saisir. Le niveau de l'action humaine. Peu importe le niveau de l'action humaine, qu'il s'agisse de l'agir, qu'il s'agisse du facere, du faire, qu'il s'agisse de la coopération. Bon, le niveau de l'activité de l'action humaine. Deuxièmement, le niveau de ce qui est mu, le niveau de ce qui est. Eh bien, il y a ce fait qu'on doit essayer de comprendre comment la structure de l'action humaine implique cinq dimensions. La structure de ce qui est mu en implique quatre et la structure de ce qui est en implique deux. Vous allez tout de suite saisir. Et ça, c'est important de comprendre. Nous commençons toujours par l'action humaine, c'est ce qui est le plus immédiat. Eh bien, la structure de l'action humaine implique cinq causes. Donc c'est bien, et c'est par les causes que je découvre la structure d'une chose. C'est en essayant de comprendre la complexité de l'action humaine, je découvre que dans l'action humaine, il y a cinq causes, puisqu'il y a la causalité exemplaire, hein, faut pas l'oublier. dans ce qui est mu, il y a quatre causes. Et dans ce qui est, il y a deux causes. Mais voyez, il y a la profondeur, c'est très curieux, c'est le vilebrequin qui se diminue. Hein. Au début, c'est très large. Alors, il y a la structure de l'action humaine, cinq manières de saisir ça. Puis, ça s'amenuise, ce qui est mu, puis ce qui est. Alors, il n'y a plus que deux causes. Et c'est pour ça que la métaphysique n'a que deux grandes orientations, la découverte de la source de toutes les déterminations, et la découverte de ce qui est d'ultime. La découverte de l'ousia, la découverte de l'âme.